Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Alors la dernière fois, j'avais commencé à vous parler de la comparaison que Villemin effectue entre, à travers l'exemple de deux philosophes, donc Saint Anselme et Kant, la comparaison qu'il effectue entre deux formes différentes de rationalisme. Il s'agit bien dans les deux cas donc de rationalisme, et dans un cas, Saint Anselme, il s'agit d'une forme de rationalisme qu'on peut appeler dogmatique, tandis que dans l'autre cas, il s'agit d'une forme de rationalisme qu'on peut appeler intuitionniste, critique et intuitionniste, ou encore, comme il arrive à Villemin de le faire, de pratique. Alors, une des choses qui caractérise l'opposition entre ces deux formes de rationalisme, dans le cas de nos deux auteurs, c'est la coupure caractéristique qui existe dans un cas, celui de Kant, entre la raison théorique et la raison pratique, et qui n'a pas d'équivalent dans l'autre cas, c'est-à-dire chez Saint Anselme, où il y a une sorte de continuité, ce qu'on pourrait appeler une sorte de continuité entre la raison théorique et la raison pratique. Alors, ça apparaît notamment dans les extraits que je vous avais cités. Villemin a dit « le principe de la transformation est simple », donc la transformation qui s'effectue quand on passe de l'une de ces deux formes de rationalisme à l'autre. Le principe de la transformation est simple. Chez Anselme, science, volonté et action restent des modes également transparents de la créature raisonnable, tandis que chez Kant, la volonté, identifiée à la raison pratique, produit certes dans le monde extérieur des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomène, mais reste elle-même inaccessible à notre connaissance. Donc vous voyez, en quelque sorte, il y a une coupure entre l'ordre de la volonté d'un côté et l'ordre de la connaissance de l'autre, qui entraîne comme conséquence le fait que le monde de la volonté est affecté d'une certaine opacité, hein, qui le rend plus ou moins impénétrable à la connaissance. Donc dans le monde extérieur des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomène, mais reste elle-même inaccessible à notre connaissance, la cause intentionnelle de l'action relève du monde intelligible, l'action seule appartient au monde sensible ou phénoménal. Autre illustration de ça, j'anticipe un peu, il me faut ajouter encore que un des problèmes les plus intéressants qui sont posés à travers cette confrontation entre Saint Anselme et Kant, c'est celui de savoir ce qui est déterminant dans les choix qui sont effectués, dans les choix qu'effectuent respectivement ces deux auteurs. Est-ce que c'est une certaine attitude à l'égard de la religion, donc le fait que dans un cas il s'agit d'un croyant, Saint Anselme, dans l'autre non, dans un cas quelqu'un qui donc adhère à une forme de foi révélée, dans l'autre quelqu'un qui n'accepte d'envisager en fait de foi possible qu'une foi rigoureusement rationnelle. Donc est-ce que c'est cette attitude à l'égard de la question de la croyance religieuse qui est déterminante, ou bien est-ce que c'est au contraire un certain choix philosophique qui est fait parmi les différentes options qui s'offrent en matière proprement philosophique. Rappelez-vous que pour Villemin, il y a six grandes formes de systèmes philosophiques, donc il y a quatre espèces de systèmes qui appartiennent à la catégorie de ceux qu'il appelle dogmatiques, qui sont le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Donc ça, ce sont les quatre formes de systèmes dogmatiques. Et il y a deux formes de systèmes appartenant à la catégorie des systèmes qu'il appelle les systèmes de l'examen. Ces deux formes sont l'intuitionnisme et le scepticisme. Alors nous avons affaire à deux auteurs, dont l'un donc choisit, philosophiquement parlant, une option dogmatique, hein, et l'autre choisit une option qui appartient qui correspond à la forme de système que Villemin appelle intuitionniste. Alors qu'est-ce qui détermine le choix, hein? Est-ce que ce qui est déterminant, c'est une certaine option philosophique, ou bien est-ce que c'est l'attitude adoptée préalablement, hein, antérieurement et de façon plus fondamentale à l'égard de la croyance religieuse? Car il est clair qu'on peut, avoir envie de répondre de deux façons opposées. On peut être tenté de dire que une certaine attitude adoptée à l'égard de la croyance religieuse, et plus précisément de la révélation, à l'égard de la foi révélée, prédispose au choix d'un certain type de système philosophique, hein, qui pourrait être, par exemple, le dogmatisme plutôt que l'intuitionnisme. Ça, c'est une possibilité. Puis on peut être aussi tenté de penser que c'est au contraire un choix effectué parmi les différentes options philosophiques qui prédétermine une certaine attitude à l'égard de la question de la foi religieuse, et plus précisément de la foi révélée. Alors c'est un problème que Villemin soulève avec raison, parce que je crois qu'il est au plus haut point intéressant, et tout en étant particulièrement difficile. Je ne pense pas qu'il ait réussi à le résoudre complètement. Enfin, je le signale à votre attention parce qu'encore une fois, c'est un problème qui est extrêmement important. Et de toute évidence, Villemin croit à une sorte d'autonomie de la philosophie sur ce point. Il semble penser que ce qui est fondamental dans les cas de cette sorte, c'est bel et bien le choix d'une option philosophique déterminée, et que c'est ce choix-là qui est déterminant. Alors j'en viens donc à ce qui constitue le point crucial dans cette affaire, c'est-à-dire dans l'opposition qu'il y a entre les rationalistes dogmatiques et les rationalistes qu'on peut appeler intuitionnistes. Villemin rappelle que tous les rationalistes dogmatiques, donc qu'il s'agisse de Platon, de Saint-Augustin, de Saint-Anselme, de Malebranche, de Leibniz et même de Descartes, qui appartient à une tradition différente, donc tous ces rationalistes de l'espèce dogmatique ont utilisé le concept de l'intuition intellectuelle, même s'ils l'ont fait dans des sens qui sont assurément différents. Et comme vous le savez, c'est précisément le genre de choses que récuse Kant. Il ne croit pas à la possibilité de construire quelque chose qui mérite d'être appelé une science sur la base de cette sorte. C'est-à-dire que en matière théorique, donc, la supposée vision de l'idée, du rapport qu'il y a entre les idées, que prétend nous fournir l'intuition intellectuelle, cette prétendue vision de l'idée ne peut conduire qu'à des apparences de science, plus précisément aux trois apparences de science que constituent respectivement la psychologie rationnelle, la cosmologie rationnelle et la théologie rationnelle, tandis qu'en matière pratique, la tendance à s'appuyer sur ce genre de choses, c'est-à-dire sur une prétendue vision de l'idée qui nous serait fournie par l'intuition intellectuelle, ne peut conduire qu'à ce qu'on appelle à l'époque l'enthousiasme, Schwärmerei, ou à ce que Kant appelle aussi une forme de mysticisme de la raison pratique. Alors, dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», Kant s'en prend vigoureusement à tous ceux qui, une fois que nous sommes sortis du domaine de l'expérience possible, prétendent nous indiquer des directions à suivre en s'appuyant sur un prétendu sens de la vérité qui est censé leur permettre d'apercevoir directement celle-ci. Donc il s'en prend directement à tous ceux qui ont tendance à dévaloriser la connaissance discursive au profit d'une forme de connaissance qui serait de type intuitif et qui nous serait fournie par une forme d'intuition intellectuelle. Et tous ces gens-là, dit-il, sont des gens qui, au fond, pensent qu'il y a un sens de la vérité qui nous permet d'atteindre directement celle-ci et de l'appréhender. Il y a un sens de la vérité qui est plutôt de l'ordre d'un sixième sens, finalement. Kant, donc, formule une condamnation radicale contre toute espèce de prétention de cette sorte, la prétention donc d'atteindre la vérité de cette façon directe et sûre. C'est ce qui l'amène à parler dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» de ce qu'il appelle un prétendu et mystérieux sens de la vérité ou une intuition transcendante prenant le nom de croyance sur lesquelles tradition et révélation peuvent être greffées sans l'accord de la raison. Donc sans que la raison ait besoin de donner son avis, en l'occurrence. Alors Kant soutient que ce qui doit être laissé à la raison, dans la mesure où elle est spéculative, n'est sûrement pas la prétention de spéculer librement, mais ce qu'il appelle rien d'autre que la fonction de purifier le concept de raison commune de ses contradictions et de défendre contre ses propres attaques sophistiques les maximes d'une saine raison. Donc ça, c'est ce qui doit être laissé à la raison pure quand elle a à s'exercer en dehors du domaine de l'expérience sensible, ce qu'elle peut effectivement légitimement faire, mais sûrement pas pour spéculer, mais pour se livrer à cet exercice, pour exercer ce que Kant appelle la fonction de purifier le concept de raison commune de ses contradictions et de défendre contre ses propres attaques sophistiques les maximes d'une saine raison. Alors Kant considère que là où l'expérience ne peut plus rien décider, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, il est impossible de parler encore de moyens qui sont censés nous permettre de trouver la vérité, des moyens qui seraient plus rapides et plus sûrs que ceux de la connaissance empirique, soit ceux de la connaissance empirique, soit ceux de la raison utilisée comme elle doit l'être, c'est-à-dire comme il est indiqué dans ce passage. Or, Kant pense donc que ce qu'il faut défendre dans toutes les questions de cette sorte est le droit qui revient à la raison, je cite ce qu'il dit, le droit qui revient à la raison de parler la première dans les choses qui concernent les objets suprasensibles comme l'existence de Dieu ou le monde à venir. Ça, c'est un point qui est évidemment tout à fait crucial. C'est page 67, toujours de la traduction française de « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Kant revendique le droit pour la raison de parler non pas en dernier lieu, mais au contraire en premier lieu, de parler la première dans les choses qui concernent les objets suprasensibles comme l'existence de Dieu ou le monde à venir. Et il ajoute que lui contester ce droit, c'est, je cite, « la porte grande ouverte à toutes les exaltations, à la superstition et même à l'athéisme ». Fin de citation. Donc la raison doit parler la première, mais comme on l'a déjà vu, les limites de ce qu'elle peut nous dire sont évidentes. Puisque d'une part, les objets suprasensibles comme Dieu ou le monde à venir ne peuvent donner lieu à la constitution d'aucune science, mais seulement à la formulation de postulats de la raison pratique. Et d'autre part, comme on l'a vu également, en matière pratique, nous pouvons savoir ce que nous devons faire et nous avons la possibilité de le faire, mais nous ne pouvons pas vraiment savoir si nous l'avons réellement fait. Il y a sur ce point une différence essentielle entre le point de vue de Saint Anselme et celui de Kant. Villemin l'exprime de la façon suivante. « Selon Anselme, écrit-il, rien n'interdit à l'agent moral de savoir qu'il est juste, puisque chaque être raisonnable connaît ce qu'il doit, sa rectitude, qu'il connaît également sa décision de l'accomplir, et qu'enfin, la fin pour laquelle il prend sa décision, le propter rectitudinem, est également objet de science. » Toutes ces choses-là sont objets de science. Comme l'acteur du théâtre ancien ou classique, il délibère en toute clarté. La décision prise, il lui arrive de ne pas s'y tenir car il souffre de faiblesse et il le sait, il manque de persévérance. Mais l'adéquation est entière entre faire et savoir. Fin de citation. Ça aussi, c'est une façon d'exprimer la différence fondamentale qu'il y a entre le point de vue de Saint Anselme et celui de Kant. Il y a chez Kant une coupure radicale entre faire et savoir qui se traduit notamment par cette espèce d'opacité du monde de la volonté. On n'arrive pas à avoir des idées tout à fait claires sur ce qui a constitué véritablement la cause de l'action, hein, sur ce qu'ont été les motifs réels qui ont déterminé l'action. Est-ce que c'est le pur respect pour le devoir moral ? Est-ce que l'amour de soi est intervenu ou non dans le cheminement qui a conduit pour finir à l'action, etc. Donc il y a une espèce d'impénétrabilité qui marque la relation que nous avons avec la cause réelle de nos actions, les motifs réels qui ont inspiré nos actions. Et ce qui se passe chez Kant n'a évidemment pas d'équivalent chez Saint Anselme, puisque dans le cas de Saint Anselme, il y a au contraire une transparence à peu près complète également dans ce cas-là. Alors sur ce point, donc, le contraste entre les deux philosophes est évident, puisque la situation de l'agent moral chez Saint Anselme et chez Kant est fondamentalement différente de ce point de vue. Vous voyez par exemple le passage suivant de Villemin. Selon Kant, l'agent moral ne peut pas connaître la décision libre qui lui fait choisir telle maxime plutôt que telle autre. C'est ce que je viens de rappeler, hein. Il ne sait pas véritablement en vertu de quoi il a choisi, il ne connaît pas la cause réelle de son action. Il peut seulement se livrer à des supputations plus ou moins fondées sur ce point. Il peut certes constater que son action est conforme ou n'est pas conforme au devoir, puisque cette constatation est d'ordre empirique, mais il ne saurait s'assurer s'il a agi par devoir ou si une maxime tirée de l'amour de soi a mêlé quelque impureté ou quelque raison d'inconstance à sa décision. Il est semblable au héros de Shakespeare, du moins quand ils ne sont pas entièrement mauvais, impénétrable à lui-même et aux autres, quand Hamlet punit enfin Claudius, hein, quand Hamlet punit enfin Claudius, venge-t-il sa mère, venge-t-il son père, se venge-t-il lui-même ou répond-il au sentiment d'honneur qu'il a laissé somnoler ? Fin de citation. Donc, je crois que cette comparaison est tout à fait justifiée. Villemin veut dire que l'agent moral, tel que se le représente Kant, est dans une situation qui est assez comparable donc, à celle du héros shakespearien. Il est impossible, en tout cas difficile, il lui est difficile de savoir exactement en vertu de quel motif il a agi. L'opacité que les, que les motifs de notre action, les motifs réels de notre action, opposent à l'intelligence, ne concernent sans doute pas tant, il faut le remarquer, les motifs en tant que nous les analysons, puisque nous pouvons effectivement essayer de les analyser, elles concernent moins donc les motifs en tant que nous les analysons que les motifs en tant qu'ils déterminent l'action. Autrement dit, ce qui, justement, les rend décisifs. Enfin, le problème, ce n'est pas tellement de savoir quels sont les motifs qui ont pu jouer un rôle dans l'action que nous avons été amenés pour finir à effectuer, c'est de savoir quels sont les motifs qui ont joué un rôle déterminant. On a un certain accès, on peut accéder jusqu'à un certain point à la connaissance des motifs qui sont intervenus dans l'action. Ce qui est, aux yeux de Kant, est difficile, pour ne pas dire impossible, c'est de savoir quels sont les motifs qui ont joué le rôle déterminant. Autrement dit, nous ne savons pas, en fin de compte, ce qui a décidé, si c'est l'obéissance au devoir pur ou un autre motif, ce qui fait que nous ne pouvons, en conscience, nous imputer que les démérites de nos actions. Nous savons quand nous avons mal agi, nous ne pouvons nous imputer que les démérites de nos actions sans avoir jamais le droit de nous imputer leurs mérites, puisque nous ne pouvons jamais avoir la certitude que l'action était véritablement méritante et non pas déterminée par des motifs de type plus ou moins intéressé. Alors cette façon de répartir les mérites et les démérites est bien entendu conforme à la doctrine chrétienne. C'est bien ce qu'est supposé faire un bon chrétien. Mais du point de vue de la révélation et de la théodicée rationaliste, qu'il est clair, cette façon de répartir les mérites et les démérites est métaphysique ou ontologique, et elle tire son origine de la création. Alors que chez Kant, qui est obligé de s'interdire ce genre d'explication, l'asymétrie de la conscience morale doit être légitimée à partir de principes purement pratiques. La situation qui résulte de cela est décrite de la façon suivante par Wiedemann. Excusez-moi, c'est le deuxième passage que vous avez sous les yeux. « Regardez de la sorte, à titre de cause intelligible de nos comportements sensibles, ils, c'est-à-dire les motifs, ils entraînent directement une asymétrie morale étrangère à toute théodicée théorique, accentuant même en un sens le caractère positif et réel du mal sous la seule réserve de correction que pourrait apporter une théodicée pratique conforme à l'espérance invincible requise par le devoir. » C'est, je crois, une assez bonne caractérisation de la façon dont les choses se passent chez Kant et de ce qui distingue sa position de celle de Saint Anselme. Wiedemann évoque pour finir la controverse entre Saint Augustin et Pélage, et il suggère que c'est à propos de la question de la volonté pécheresse que le rationalisme pratique et le principe d'autonomie, c'est-à-dire donc le point de vue de Kant, creuse le plus radicalement le fossé entre Saint Anselme et Kant. Saint Augustin avait expliqué contre Pélage, qui cherchait à minimiser le plus possible le rôle de la grâce, que le pécheur ne peut être ramené au bien qu'il a abandonné que par la grâce de Dieu, et non par la liberté de la volonté qu'il a perdue en raison de son iniquité. Donc ça, c'est le point de vue que défend Saint Augustin. Il cherche à imposer l'idée que pour être ramené au bien, le pécheur, celui qui a péché gravement, a besoin donc du secours de la grâce de Dieu. Alors que Pélage, lui, à l'inverse, estime que la liberté de la volonté est le seul élément qui doit entrer en considération dans ce genre de choses. Or, par rapport à Saint Anselme, dont le point de vue reste augustinien, Kant se comporte comme une sorte d'ultra-pélagien. C'est ainsi que Wiedemann le qualifie, il se comporte comme une sorte d'ultra-pélagien qui ignore délibérément la grâce et demande tout à la volonté. Wiedemann dit « Ultra-pélagien, Kant retire au péché toute force qui empêcherait métaphysiquement le pécheur de se rétablir dans l'obéissant. » C'est une position qui peut sembler évidemment difficile à tenir, parce que d'une certaine façon, comme Wiedemann le dit dans le passage que j'ai cité antérieurement, le péché est quelque chose de fondamental et d'omniprésent, et en même temps, nous sommes supposés pouvoir en triompher par nos seules forces, hein, ce qui amène Wiedemann à dire ce qu'il dit dans ce passage, « Ultra-pélagien, Kant retire au péché toute force qui empêcherait métaphysiquement le pécheur de se rétablir dans l'obéissance, non seulement la grâce n'assure pas le don de l'être, mais elle pervertirait la pureté, la constance, et la réparation qui n'incombe qu'à nos seules forces. Donc nous devons pouvoir nous conduire moralement à l'aide de nos seules forces sans aucune espèce de secours venu d'ailleurs. La grâce est une illusion religieuse, nulle faute ne peut être effacée par le sang d'un autre. En résumé, on peut dire qu'entre nos deux penseurs, entre deux penseurs comme saint Augustin et Kant, il y a à la fois une opposition qui est celle de deux systèmes philosophiques, en l'occurrence celle de deux formes différentes de rationalisme, dont l'un appartient à la catégorie que Vimet appelle dogmatique et l'autre à la catégorie qu'il appelle intuitionniste, et une opposition sur la question de la foi, qui pour l'un peut être le produit d'une révélation, c'est ce que pense saint Anselme, mais pour l'autre ne peut être que rationnel. Alors j'ai, comme je l'ai indiqué, donc le problème qui se pose à propos de ce genre de situation est celui de savoir quel est l'élément qui dans cette affaire est déterminant. Est-ce que c'est le choix philosophique qui a été effectué, le choix entre deux options philosophiques différentes, le rationalisme dogmatique dans un cas, le rationalisme critique et intuitionniste dans l'autre, ou bien est-ce que c'est l'adhésion préalable à la religion chrétienne dans le cas de saint Anselme et le refus de ce genre de ce type de réponse dans le cas de Kant. Bon, je laisse de côté cette question qui est, encore une fois, une question extrêmement intéressante, mais qui demanderait à être regardée de beaucoup plus près que je ne suis en mesure de le faire, en tout cas pour le moment. Jusqu'à présent, je vous ai parlé principalement de la façon dont s'opère, selon Vimin, la division principale entre les formes de systèmes philosophiques, entre deux formes, deux grandes formes de systèmes philosophiques, donc les systèmes dogmatiques d'un côté et les systèmes de l'examen de l'autre. Et c'est parce que la différence entre ces deux espèces de systèmes repose sur l'utilisation de deux notions différentes de la vérité ou sur deux conceptions différentes de la vérité. Donc c'est pour cette raison que je me suis étendu aussi longuement en considérant notamment l'exemple des mathématiques sur le problème des liens plus ou moins étroits que l'on peut juger nécessaire de maintenir entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître. Parce que le problème fondamental qui est posé dans toutes ces considérations, c'est évidemment celui de la nature des liens qui doivent exister entre la vérité d'un côté et la possibilité pour nous de la reconnaître de l'autre. Alors j'aurai, du moins je l'espère, à vous parler plus tard de façon détaillée de la manière dont sont introduites les subdivisions à l'intérieur de ces deux catégories principales. Les systèmes dogmatiques, comme je disais il y a un instant, donc se répartissent en quatre sous-catégories, le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements, et les systèmes de l'examen en deux, l'intuitionnisme et le scepticisme. Pour le moment, il nous faut revenir à ce qui constitue, quand la classification des systèmes philosophiques est rapportée à celle des formes d'assertion fondamentale, il nous faut revenir à la caractéristique spécifique, à ce qui constitue la caractéristique spécifique des philosophies intuitionnistes en général, que le domaine considéré soit celui de la pratique ou celui de la théorie. Dans sa classification des systèmes, Vimin définit les systèmes dogmatiques comme étant ceux qui privilégient dans la construction du système les propositions par opposition au jugement. Les propositions sont des assertions spontanées qui indiquent un état de choses, que ce qui est indiqué soit, dit Vimin, une idée, une espèce, un événement, un individu ou autre chose. Les propositions concernées ont toutes en commun le fait de faire abstraction du mode d'accès cognitif à l'état de choses. Ça, c'est la différence cruciale. Hein, donc les propositions font complètement abstraction de ce problème-là, c'est-à-dire le mode d'accès cognitif à l'état de choses représenté par la proposition, alors que, au contraire, ce qui caractérise les jugements, c'est le fait que ils sont, eux, des assertions réfléchies et modalisées qui comportent une référence essentielle au mode d'accès cognitif à l'état de choses. Et comme vous le voyez, l'opposition entre ces deux grandes espèces de systèmes philosophiques, les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen, tient principalement à ce fait, c'est-à-dire à l'importance qu'on accorde à cette question de l'accès cognitif à l'état de choses dans le choix du concept de vérité que l'on se donne. Alors Vimin caractérise les jugements au sens où il utilise le terme de la manière suivante. Il s'oppose, dit-il, aux propositions dogmatiques correspondantes en explicitant les opérations dont dépend la valeur de vérité de l'énoncé et qui font partie intégrante de l'état de choses. Jugement de constatation, de réflexion proprement dite, de construction supposent une action. Donc oui, il y a quelque chose qui ici, là, est tout à fait important, c'est que dans le jugement intervient une référence à l'action qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas de la proposition. Une référence donc à des actions effectuées pour parvenir à la connaissance, à la possession de la vérité. Donc, jugement de constatation, de réflexion proprement dite, de construction suppose une action. Lorsque Zénon dit que le pas d'Achille est indéfiniment divisible, nous n'avons pas à comprendre que les segments décroissants de la division existent préalablement aux actes de bisegmentation, et c'est pourquoi le philosophe dira qu'un tel infini est en puissance. La valeur de vérité des énoncés de méthode dépend non pas de la correspondance entre l'énoncé et un état de choses autonome, mais de l'adéquation entre l'énoncé et l'action, entre ce que le sujet dit et ce qu'il fait. Donc, comme vous voyez, la référence à l'action devient effectivement tout à fait essentielle, ce qui amène Wiemann donc à parler d'une adéquation qui n'est plus une adéquation entre ce qui est dit et l'état de choses représenté, mais entre ce que le sujet dit et ce qu'il fait. Et, ajoute-t-il, la syntaxe des jugements de méthode exige de l'interlocuteur qui prétend apprécier la valeur de vérité de ce qu'on lui dit, qu'il effectue pour son compte l'opération de construction que lui propose l'énoncé d'autrui. Comme on le voit, c'est donc le choix des jugements de méthode par opposition aux propositions c'est ce choix qui implique l'adoption d'une conception différente de la vérité, c'est ce choix qui consiste assurément encore, si l'on veut, en une adéquation d'une certaine sorte, mais de nature différente. On peut encore parler d'adéquation, mais encore une fois, il s'agit d'une adéquation qui n'est plus la même. On pourrait avoir le sentiment, c'est un point qu'il faut mentionner, parce que ça pourrait susciter une difficulté, on pourrait avoir le sentiment que le conceptualisme et le nominalisme font échec à la division entre les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen, puisqu'ils sont constructivistes et qu'ils acceptent tout à fait de prendre en considération le mode d'accès aux états de choses concernés. Donc on pourrait penser qu'ils se distinguent sur ce point du réalisme, donc par le fait d'accepter de prendre en considération le mode d'accès à l'état de choses concernés, ce qui pourrait donner l'impression de les rejeter plutôt du côté des systèmes appartenant à la catégorie des systèmes de l'examen. On peut remarquer d'ailleurs que les platoniciens sont tout à fait capables, eux aussi, de faire référence à des constructions et d'exiger la constructibilité des objets auxquels ils font référence. Une réaction courante à l'intuitionnisme est celle qui consiste à considérer que le constructivisme est certes acceptable et même recommandé, en tout cas en mathématiques, mais qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable qu'il soit autorisé à affecter la logique elle-même. Et à nous obliger, donc ils soient autorisés à nous obliger, comme le voudraient les intuitionnistes, à en changer. Donc ça, c'est une position qui est assez courante, qui consiste à accepter le constructivisme comme une façon de limiter l'arbitraire, d'empêcher une forme de libéralisme excessif dans l'acceptation d'entités abstraites, comme par exemple en mathématiques, mais en revanche, certains auteurs considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser le constructivisme à affecter la logique elle-même, comme le voudraient les intuitionnistes, puisque ce que les intuitionnistes souhaiteraient, c'est qu'ils soient autorisés précisément à intervenir dans le domaine de la logique elle-même. Alors vous voyez, sur ce point, la position de Quine, on peut pratiquer, dit-il, et même prêcher un degré considérable de constructivisme sans adopter la logique intuitionniste. Le constructivisme de la théorie des ensembles de Weyl est presque aussi ancien que l'intuitionnisme de Brouwer et il utilise la logique orthodoxe. Donc oui, selon certains auteurs, dont fait partie Quine, on peut tout à fait accepter le constructivisme dans le cas en philosophie des mathématiques, mais sans aller jusqu'à supposer qu'il pourrait constituer une raison de changer de logique et d'adopter par exemple la logique intuitionniste de préférence à la logique classique. Donc, on peut pratiquer et même prêcher un degré considérable de constructivisme sans adopter la logique intuitionniste. Le constructivisme de la théorie des ensembles de Weyl est presque aussi ancien que l'intuitionnisme de Brouwer et il utilise la logique orthodoxe. Il procède de façon constructive seulement dans ses axiomes concernant l'existence des ensembles. Les scrupules constructivistes peuvent être réconciliés avec la commodité et la beauté de la logique classique. Ça, c'est un des principes fondamentaux de Quine, comme il souhaite par-dessus tout pouvoir conserver la logique classique à cause de ce qu'il appelle sa commodité et sa beauté. Il a évidemment tout intérêt, enfin, il n'est pas surprenant qu'il souhaite cantonner l'intervention des principes et des contraintes émanant du constructivisme, qu'il souhaite les cantonner au domaine des mathématiques, et plus particulièrement quand on est confronté donc, au problème du choix des axiomes concernant l'existence des ensembles. Hein, quand la question posée est quel genre d'ensemble peut-on légitimement admettre. Et là, donc, estime Quine, normal d'accepter certains principes constructivistes. Mais ça ne doit pas conduire donc jusqu'à une remise en question explicite de la logique classique. Alors cette conception défendue par Quine a été critiquée de bien des façons. Elle l'a été notamment par Susan Haack, dont j'ai déjà cité le livre donc, sur la logique déviante. Susan Haack remarque que cette conception quinienne ne peut pas satisfaire les intuitionnistes, notamment pour la raison qu'elle consiste à supposer que les modifications à introduire doivent concerner la partie la moins fondamentale, de préférence à la partie la plus fondamentale de l'édifice de la connaissance, et que les mathématiques sont moins fondamentales que la logique, ce qui est une chose que les intuitionnistes n'admettent justement pas. Donc ce qu'on peut reprocher à Quine, c'est de penser que si des modifications doivent être introduites, il vaut mieux qu'elles affectent une partie moins fondamentale. Or, on a tendance à penser, mais ce n'est pas du tout l'avis des intuitionnistes, que les mathématiques constituent une partie moins fondamentale, la partie la plus fondamentale étant constituée par la logique, et cette partie-là, en raison du fait qu'elle est la plus fondamentale, étant une partie qu'on aurait intérêt à essayer de préserver dans toute la mesure du possible. Donc c'est certainement une position qui ne peut pas satisfaire les intuitionnistes, et on peut remarquer également que si on est sensible à l'exigence de systématicité qui caractérise la philosophie, on ne peut pas considérer comme réellement satisfaisant d'accepter le constructivisme uniquement comme moyen, par exemple, de venir à bout des paradoxes de la théorie des ensembles et de le limiter à cet usage, ce qui est pourtant plus ou moins l'usage que Quine suggère de faire du constructivisme, hein, de limiter à la résolution de problèmes comme ceux qui résultent des paradoxes de la théorie des ensembles. Alors à cela s'ajoute la tendance de Quine à douter qu'il existe réellement un désaccord philosophique substantiel entre les intuitionnistes et leurs adversaires réalistes sur la question du choix à faire entre deux logiques rivales. Quine fait partie en effet de ceux qui pensent que les constantes logiques intuitionnistes n'ont pas la même signification que leurs corrélats classiques supposés, ce qui introduit le risque de voir le désaccord se réduire finalement à un dissentiment plus ou moins verbal, et même essentiellement verbal. Il est tentant, par exemple, de supposer que le caractère déviant de la logique intuitionniste provient, pour une part essentielle, de la signification particulière que les intuitionnistes ont décidé de donner à la négation. Et ça, c'est une position qui est défendue assez souvent, qui consiste à dire qu'au fond, les intuitionnistes adoptent certes des règles différentes pour la négation, mais du coup, ils parlent d'une autre négation, par conséquent, d'une autre négation que celle dont il est question dans la logique classique. Par conséquent, il ne peut pas y avoir, de ce point de vue, de désaccord substantiel entre eux. Étant donné que, pour les intuitionnistes, certains cas particuliers du schéma A ou non A ne sont pas vrais, parce que les deux membres de la disjonction sont faux, on peut avoir l'impression qu'ils ont choisi de remplacer la négation contradictoire par la négation contraire. C'est-à-dire, ils utilisent une forme de négation au terme de laquelle une proposition et sa négation, certes, ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps, ce qui peut donner ce qu'on peut être tenté d'interpréter comme signifiant qu'il parle d'une négation qui est plutôt plus proche de la négation contraire que de la négation contradictoire. Et c'est une interprétation qui semble également confirmée par la signification qui est donnée à la disjonction donc, entre il existe x tel que f d'x, hein, il y a un x qui a la propriété f, ou il n'existe pas d'x tel que f d'x. Hein, il existe un x qui a la propriété f, ou il n'existe pas d'x qui a cette propriété. La disjonction en question, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, ayant pour les intuitionnistes la signification suivante, elle signifie un nombre possédant la propriété f existe ou il ne peut pas exister. C'est-à-dire il existe ou bien il existe une, une démonstration du fait que, ou bien on a une démonstration du fait qu'il existe, c'est-à-dire une possibilité de le construire, ou bien on a une possibilité de démontrer qu'il ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'une absurdité résulte de la supposition de son existence. Ce qui, effectivement, donne l'impression qu'on a, on a affaire à une négation qui a pris une signification sensiblement différente. Et dans ce cas-là, on a l'impression que Quine pourrait bien avoir raison, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de désaccord réel et sérieux entre le partisan de la logique classique et le partisan de l'utilisation, au contraire, de la logique intuitionniste, puisque même un logicien classique n'est pas prêt à soutenir que, quel que soit l'objet X et la propriété F, il existe un X qui a la propriété F ou il ne peut pas en exister un. Ce qu'il affirme est simplement il en existe un ou il n'en existe pas, mais il ne se sent pas tenu d'affirmer, en plus de ça, une disjonction de l'espèce, il existe un X qui a la propriété F ou il ne peut pas en exister un. Et si c'est seulement cela que veulent dire les intuitionnistes, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir envie de s'intéresser à une négation de cette sorte, donc la leur, il semble qu'ils ne puissent pas... Il n'y a pas de raison d'entrer sérieusement en conflit avec eux. La même chose est vraie en ce qui concerne l'interprétation du quantificateur existentiel. Les intuitionnistes proposent apparemment de lui donner une signification plus restrictive que celle qui lui est reconnue habituellement, ce qui ressort de façon particulièrement évidente quand il existe X tel que f d'X est interprété explicitement comme signifiant un nombre possédant la propriété f a été construit. Pas seulement un nombre possédant la propriété F peut être construit, mais un nombre possédant la propriété F a été construit. Il n'y a rien qui s'oppose, en principe, si vous voulez, à la prise en considération d'un quantificateur existentiel ayant ce type de signification. Mais encore une fois, ce qui semble disparaître dans ces conditions, c'est la possibilité d'un désaccord substantiel avec le défenseur du point de vue classique. Néanmoins, de nombreux auteurs doutent sérieusement que le contentieux que les intuitionnistes ont apparemment avec la logique classique puisse être réglé aussi simplement. Autrement dit, en recourant à ce qu'on appelle la théorie du changement de signification. C'est l'idée que défend par exemple Charles Parsons, qui dit ceci à propos de ce désaccord entre le point de vue classique et le point de vue intuitionniste. Il serait trop naïf de considérer le désaccord concernant la loi du tiers exclu comme un désaccord direct sur un unique énoncé dont la signification est clairement la même. Donc, il est un peu délicat de se dire les intuitionnistes et les partisans de la logique classique sont en désaccord sur un seul et unique principe auquel ils donnent exactement la même signification. Donc, ça peut soulever un problème. Ils donnent exactement la même signification à ce principe, mais sont en désaccord sur sa valeur de vérité, c'est-à-dire les partisans, les défenseurs du point de vue classique le considèrent comme vrai universellement, tandis que les partisans du point de vue intuitionniste refusent de l'accepter sous cette forme-là, c'est-à-dire de lui reconnaître une validité universelle. Mais d'un autre côté, ajoute Parsons, cela n'irait pas non plus de considérer la différence comme « verbale », entre guillemets, en ce sens que chacun peut formuler ce que veut dire l'autre d'une manière telle que le désaccord disparaîtra. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que les deux protagonistes dans ce débat puissent s'expliquer l'un avec l'autre sous une forme qui consisterait pour chacun des deux à dire à l'autre « bon, ben ça va, les choses sont claires, vous donnez simplement à tel ou tel principe ou à tel ou tel connecteur propositionnel ou au quantificateur existentiel, vous lui donnez une signification différente de celle que je lui donne moi. » Il y a peu d'espoir que le problème puisse prendre exactement cette forme-là. Quine n'est pas convaincu en ce qui concerne que l'intuitionnisme propose une option susceptible d'entrer en compétition avec la logique classique sur quelque chose de plus sérieux qu'un problème de signification. Et il pense que, pour autant que la rivalité existe, un bilan des profits et des pertes qu'impliquerait un changement de logique permet de trancher sans grande hésitation en faveur de la logique classique. Sur ces deux points, Villemin est en désaccord avec lui. Premièrement, il pense qu'il existe entre le réalisme et l'intuitionnisme, aussi bien l'intuitionnisme mathématique que l'intuitionnisme dans le sens élargi qu'il donne au mot. Il existe donc entre ces deux choses un désaccord philosophique fondamental qui est tout sauf verbal et dont la classification des systèmes philosophiques permet de comprendre la nature exacte. Et deuxièmement, il ne croit pas c'est toujours de vie humaine qu'il est question, il ne croit pas que l'on puisse espérer voir le désaccord se régler un jour, que ce soit par le genre de considération auquel Quine fait appel ou par d'autres quelconques. J'en arrive à présent au chapitre 9 de mon parcours, que j'ai intitulé « Dogmatisme et intuitionnisme, suite, croyance, vérité et connaissance ». Malheureusement, je vais être obligé de l'abréger, parce que je m'aperçois qu'après cette séance, il ne nous en restera plus que deux. Mais il y a tout de même encore une ou deux précisions que j'aimerais vous donner à propos de cette opposition fondamentale, donc la grande opposition entre le point de vue du dogmatisme que Wittmann qualifie de dogmatique et le point de vue intuitionniste. Il est tout à fait vrai, en dépit de ce que j'ai pu vous dire, que pour un platonicien comme Gödel, il n'y a pas d'opposition radicale entre le réalisme et le constructivisme. Pas plus du reste qu'il n'y en a une entre le réalisme et l'idéalisme. En effet, même les ordres d'infini cantorien peuvent être considérés eux aussi comme des constructions, en dépit du fait qu'ils utilisent des procédures de construction, comme les définitions imprédicatives, que les intuitionnistes réprouvent. Il n'y en a pas moins une différence importante dans l'utilisation qui est faite des constructions, aussi bien entre les réalistes d'une part et les conceptualistes et les nominalistes d'autre part, qu'entre les conceptualistes et les nominalistes eux-mêmes. Vidal-Rosset, dans le travail que j'ai déjà cité à différentes reprises, caractérise la différence de la façon suivante. Les conceptualistes font usage de la construction pour supprimer la transcendance platonicienne. On peut se souvenir ici de ce que Russell avait dit. Russell avait dit « remplacer dans toute la mesure du possible les entités inférées par des constructions ». Donc les constructions, c'est l'outil privilégié dont on se sert quand on veut éviter d'avoir à utiliser les ressources de ce que Vidal-Rosset appelle la transcendance platonicienne. Il vaut mieux être en mesure de construire les objets plutôt que d'avoir à les accepter en quelque sorte tout fait et comme en quelque sorte descendu du ciel, hein, en l'occurrence un ciel platonicien. Donc les conceptualistes font usage de la construction pour supprimer la transcendance platonicienne, tandis que les nominalistes s'en servent pour chasser les objets abstraits dont s'encombrent encore les premiers. Donc eux, si vous voulez, c'est pas qu'ils... Non seulement ils ne veulent pas de construction, mais ils ne veulent pas d'objets abstraits tout court, que ceux-ci soient construits ou qu'ils soient de type transcendant. On peut penser cependant que la posture des uns et des autres reste foncièrement dogmatique, c'est-à-dire que que vous adoptiez le point de vue du réalisme, celui du conceptualisme, ou le point de vue du nominalisme, sous les deux formes sous lesquelles il peut exister, c'est-à-dire le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Donc on peut penser que cette posture, dans ces quatre cas, donc la posture reste fondamentalement dogmatique. Et elle reste dogmatique tant que la distinction entre les propositions et les jugements et le choix entre les premières et les secondes n'ont pas été effectués clairement. C'est-à-dire, c'est le point de vue que défend Vidal-Rosset, c'est que tant qu'on n'a pas introduit une référence explicite à ce qui constitue l'aspect crucial, c'est-à-dire le mode d'accès cognitif à l'état de choses, hein, tant qu'on n'a pas introduit ce genre de choses, on continue à s'exprimer et à évoluer dans le cadre du dogmatisme. C'est-à-dire, le genre d'option que l'on choisit reste dogmatique. Autrement dit, c'est la référence explicite au mode d'accès cognitif à l'état de choses et pas seulement à l'idée de construction qui fait la différence réelle. La différence réelle, donc, entre le point de vue dogmatique et le point de vue qui correspond à ce que Wittmann appelle l'adoption de l'une ou l'autre des formes du système de l'examen, par opposition au système dogmatique. Donc, ce que veut dire Vidal-Rosset, si je le comprends bien, que le nominalisme et le conceptualisme peuvent rester eux aussi dogmatiques dans la mesure où ils essaient de légiférer sur l'ontologie en général et de décider quels sont les objets qui existent et ceux qui n'existent pas, sans que cela implique fondamentalement une référence à une subjectivité connaissante. Alors que cette référence, la référence à la subjectivité connaissante, est au contraire essentielle aussi bien pour les intuitionnistes mathématiques que pour Kant ou Descartes. Vidal-Rosset soutient que les jugements de méthode ne peuvent ni être définis, ni être utilisés eux-mêmes pour définir l'intuitionnisme si on ne présuppose pas l'existence au fondement des mathématiques d'une subjectivité créatrice. Donc c'est ça qui, à ses yeux, je crois qu'il a raison sur ce point, constitue donc l'élément essentiel. Ce n'est pas la référence à l'idée de construction, Mais c'est cette référence à l'idée d'une subjectivité créatrice. Or, les conceptualistes et les nominalistes contemporains font de la constructivité un mot d'ordre, mais ni les uns ni les autres ne manifestent beaucoup d'empressement à faire intervenir l'idée de la subjectivité, qu'ils souhaiteraient au contraire, autant que possible, pouvoir ignorer pour ne plus faire référence quand il est question des mathématiques qu'à des systèmes, à des langages et à des symboles. Comme c'est aussi de toute évidence, et même de façon très prononcée, la tendance de Quine, on peut s'attendre à ce qu'il ait lui aussi des difficultés à rendre justice à l'intuitionnisme et à lui attribuer la place qui lui revient dans la classification des philosophies des mathématiques et des philosophies tout court. La référence au sujet connaissant, aux moyens de connaissance dont il dispose et aux démarches qu'il effectue est effectivement cruciale dans la philosophie des mathématiques intuitionniste. Pour un platonicien, si nous considérons une proposition quantifiée universellement, une proposition de la forme pour tout x, f d'x, donc tout x a la propriété f, si nous considérons une propriété de cette sorte, même quand le domaine d'individu auquel elle est appliquée est une totalité infinie, nous avons une compréhension directe de ce que signifie le fait d'être vrai pour une proposition de cette sorte, une compréhension qui n'implique pas que nous ayons une idée quelconque de ce que pourrait être une raison uniforme capable d'expliquer pourquoi f d'x se révélera être vrai à chaque fois que la question sera posée à propos d'un cas particulier quelconque. Une raison uniforme ou un ensemble fini de raisons uniformes de cette sorte qui permettent de disposer a priori de tous les cas particuliers concevables sans avoir à les considérer individuellement constitue justement ce que nous fournirait une démonstration si nous en avions une. Mais du point de vue qu'on appelle classique, nous n'avons pas besoin pour comprendre la proposition d'être certain que si elle est vraie, il existe une démonstration pour elle et que nous pouvons la trouver. On peut parfaitement accepter l'idée de propositions qui, bien que vraies, ne réussiront peut-être jamais à être démontrées. Pour un intuitionniste, au contraire, nous n'avons aucune compréhension de ce type, je veux dire aucune compréhension de la signification d'une proposition universelle, une proposition de la forme pour tout x, f d'x, nous n'avons aucune compréhension de ce genre de proposition qui soit de l'espèce que je viens d'évoquer. La seule notion de vérité que nous pouvons utiliser dans les cas de ce genre est celle d'une vérité qui est liée directement aux moyens dont nous disposons pour l'établir. Ce que Domet exprime dans ce passage, l'usage que nous apprenons à acquérir d'énoncés impliquant la quantification sur un domaine infini ne fournit pas une compréhension quelconque de ce que c'est pour un tel énoncé que d'être vrai, indépendamment de notre capacité de le démontrer. Tout ce que nous apprenons est la manière de reconnaître une démonstration ou une réfutation d'un tel énoncé. Concevoir l'énoncé comme possédant une valeur de vérité objective, déterminée, indépendamment de notre capacité de le démontrer ou de le réfuter, consiste à effectuer une assimilation fallacieuse du cas de l'infini à celui du fini. Notre compréhension de l'usage des énoncés mathématiques ne peut nous fournir une quelconque conception de la vérité qui soit de cette sorte pour eux. Donc ça, c'est effectivement le point crucial, hein, ce dont les intuitionnistes cherchent à nous persuader, c'est qu'il y a une seule façon d'apprendre la signification d'une proposition universelle du type, quel que soit x à la propriété f, lorsque cette proposition concerne un domaine qui comporte une infinité d'éléments. Il n'y a qu'une façon d'apprendre la signification de l'énoncé de cette sorte, c'est d'apprendre à reconnaître, et c'est la seule chose que nous ayons jamais apprise. Hein. La seule chose que nous ayons jamais appris, c'est à reconnaître donc, ce qui constituerait une démonstration ou une réfutation pour une proposition de cette sorte. Il est par conséquent essentiel de bien se rendre compte que ce que l'intuitionniste reproche à son adversaire dogmatique n'est pas d'abord de s'autoriser des assumptions ontologiques contestables et hasardeuses, mais de s'imaginer que nous comprenons des assertions mathématiques qu'en réalité nous ne comprenons pas. Ce qui est crucial dans l'intuitionnisme, en tout cas, c'est le genre de choses sur lequel Domet a insisté particulièrement à propos de l'intuitionnisme. Encore une fois, donc, ce qui gêne et même choque les intuitionnistes, ce n'est pas tellement le fait d'accepter de pratiquer une forme de libéralisme ontologique contestable, d'accepter des entités dont le, dont l'existence peut sembler douteuse, mais c'est de se faire une idée du genre de compréhension que nous sommes susceptibles de posséder, d'acquérir et de posséder une proposition mathématique, donc se faire une idée qui est erronée, hein, c'est-à-dire de nous imputer la compréhension de propositions mathématiques qu'en réalité nous ne comprenons pas et que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons, on pourrait dire, je crois, parce que nous n'avons pas été en mesure, nous n'avons été à aucun moment en mesure d'apprendre ce qu'elles pourraient bien signifier si on se représente leur signification de cette manière-là. On peut tirer de cela, en radicalisant un peu les choses, la conclusion que l'intuitionnisme en philosophie des mathématiques n'est pas une position principalement technique concernant la meilleure façon de reconstruire les mathématiques existantes, ce qui est au fond le genre de choses que cherche pour l'essentiel Quine, mais c'est une position spécifiquement philosophique, qui est prête, pour des raisons proprement philosophiques, à sacrifier au besoin une partie des mathématiques existantes. J'avais déjà insisté, je crois, à différentes reprises sur cet aspect du problème. Je le fais à nouveau parce que c'est un point tout à fait central. Hein. L'intuitionnisme, encore une fois, n'est pas une position qu'on pourrait se représenter comme essentiellement technique concernant la façon la plus économique ou la plus satisfaisante ou quoi que ce soit de ce genre de reconstruire les mathématiques dans leur ensemble. Hein. C'est le genre de choses que cherche Quine, mais c'est l'intuitionnisme, bon, par opposition à cela, donc est une position spécifiquement philosophique, tellement philosophique que, au fond, les intuitionnistes sont prêts, pour des raisons essentiellement philosophiques, à renoncer à une partie des mathématiques existantes. De toutes les positions qui se sont affrontées sur la question du fondement des mathématiques, l'intuitionnisme est probablement, encore une fois, celles dont les motivations sont le plus rigoureusement et le plus exclusivement philosophiques, et c'est du reste ce qui explique en grande partie l'indifférence avec laquelle il a été traité par une bonne partie de la communauté des mathématiciens qui ne voyaient pas de raison de se laisser impressionner par des considérations et des arguments essentiellement philosophiques. Et ce qui amène encore assez souvent les mathématiciens à dire que c'est une conception qui ne présente plus d'intérêt qu'historique. Damet insiste lui aussi tout particulièrement sur ce caractère fondamentalement philosophique du désaccord, tout en formulant la conviction qu'il est résoluble et devrait pouvoir un jour être résolu. Il pense qu'une fois qu'on l'a reformulé comme il propose de le faire, c'est-à-dire en termes de signification, hein, c'est-à-dire comme une question ayant trait à la signification des propositions mathématiques, et à la manière dont la dite signification peut être possédée et acquise, il pense qu'il y a des chances que le désaccord devienne résoluble. Alors voyez ce qu'il dit donc, dans ce passage. Les arguments les plus forts comprenés en faveur de l'intuitionnisme viennent de l'insistance sur le fait que l'explication de la signification, et par conséquent des opérateurs logiques en particulier, est une énonciation non des conditions de vérité, mais des conditions d'acceptabilité. Donc, ça c'est dans un compte-rendu, donc je crois, des remarques sur la philosophie des mathématiques de Wittgenstein. Ce que Demet veut dire, c'est que ce qui est au centre de l'argumentation des intuitionnistes, de la controverse qu'ils ont avec leurs adversaires, c'est l'idée que la signification des propositions mathématiques doit être comprise non pas en termes de conditions de vérité objective, susceptibles d'être réalisées ou de ne pas l'être, quels que soient les moyens que nous avons de savoir ce qu'il en est, mais elle doit être donnée donc en termes de conditions d'acceptabilité. Or, la question concernant la forme que doit prendre une explication de la signification pour des propositions comme celle des mathématiques ou pour les propositions en général est aux yeux de Demet une question éminemment philosophique. Que ce soit ce qu'elle est, ne saute peut-être pas immédiatement aux yeux quand on est habitué à la façon traditionnelle de formuler les problèmes philosophiques. Mais la raison de cela est que pour Demet, il y a intérêt justement à formuler le plus possible les questions philosophiques d'une façon modifiée qui favorise la découverte d'arguments susceptibles de faire pencher de façon décisive la balance d'un côté ou de l'autre et de conduire ainsi à une réponse. On pourrait presque dire que c'est le fait que c'est la reformulation que propose Demet rend la question à première vue plus facilement décidable, est utilisé par lui, au moins implicitement, comme un argument en faveur de l'acceptation de ce type de reformulation. Il faut accepter de les reformuler de cette manière-là, parce que tant qu'elles sont formulées de la façon traditionnelle, il n'y a pratiquement aucun espoir de se rapprocher d'une solution. Tandis que, d'après lui, une fois qu'on a accepté de les reformuler de cette façon, donc dans le cas précis, en termes de, comme une question ayant trait à la signification, hein, au genre de signification que nous sommes en mesure d'attribuer à nos propositions, en l'occurrence les propositions mathématiques, donc une fois qu'on a accepté de les reformuler de cette sorte, il y a, semble-t-il, des chances accrues pour que nous réussissions à les résoudre effectivement. Alors, une autre différence essentielle qui contribue à créer une distance à peu près infranchissable entre Quine et l'intuitionnisme réside dans la conception holiste qu'il défend à propos de la signification des énoncés mathématiques. Alors ça, c'est encore un point dont il faut que je vous dise quelques mots. Quine donc défend une conception holiste, on va voir tout de suite ce qu'il faut entendre par là. La conception qu'on peut appeler holiste est le genre de conception que Quine adopte, en dépit du fait qu'il se dissocie clairement des formalistes en acceptant ouvertement des objets abstraits dans son ontologie. Il se dissocie clairement donc du formalisme, puisqu'il accepte de façon assez libérale des objets abstraits. Il est prêt à accepter des ensembles d'ensembles, etc., sans difficulté. Donc son point de vue n'est pas celui du formalisme usuel. Néanmoins, il y a un point commun entre lui et les formalistes, c'est précisément le holisme. Alors, les intuitionnistes, pour leur part, sont aussi éloignés des formalistes que peuvent l'être les platoniciens, en ce sens qu'ils considèrent les énoncés d'une théorie mathématique comme des propositions douées de sens auxquelles les notions de vérité et de fausseté peuvent être appliquées de façon appropriée et comme ayant un contenu individuel et une signification qui leur appartient en propre. Donc, ils partagent entièrement avec les réalistes l'idée que les propositions mathématiques sont des propositions dont la signification n'a pas à être comprise de façon holiste. Or, il est tout à fait possible de leur attribuer une signification et une valeur de vérité en les considérant de façon individuelle. Par conséquent, les intuitionnistes répudient implicitement, comme l'a fait Frege, une conception holiste du langage et de la signification en mathématiques. Autrement dit, un type de conception que de mettre décrit, comme vous le voyez ici, selon une conception holiste, donc il s'agit dans le cas précis de la conception défendue par les formalistes, selon une conception holiste, aucune proposition mathématique, ni même une théorie mathématique entière, n'a une signification par elle-même. Elle n'a une signification qu'en tant que formant une partie d'autres théories, en particulier de théories scientifiques, qui peuvent être jugées correctes ou incorrectes sur la base de l'expérience, mais à nouveau uniquement comme un tout. Donc, si vous voulez, pour dire les choses simplement, seul le tout de la science constitue la chose à laquelle on doit se référer pour attribuer une signification aux propositions concernées. Même les mathématiques elles-mêmes ne disposent pas à cet égard d'une autonomie véritable. Donc, selon une conception holiste, aucune proposition mathématique, ni même une théorie mathématique entière, n'a une signification par elle-même. Elle n'a une signification qu'en tant que formant une partie d'autres théories, en particulier de théories scientifiques qui peuvent être jugées correctes ou incorrectes sur la base de l'expérience, mais à nouveau uniquement comme un tout. Il ne peut par conséquent, selon une telle théorie holiste, y avoir aucune possibilité d'isoler la contribution apportée à la théorie physique par les mathématiques qui y sont utilisées. On ne peut pas isoler donc, ce type de contribution. Dans une théorie physique, on ne peut pas isoler la contribution apportée du point de vue de la signification et du contenu par l'élément mathématique. Encore moins, donc il est encore moins possible de juger que la partie mathématique de la théorie est correcte ou incorrecte par elle-même. Selon une telle conception, une théorie mathématique est en elle-même incomplète. Sa valeur, s'il y en a une, résidera dans la possibilité de l'incorporer à une théorie empirique. Et dans la mesure où les théories mathématiques ont été incorporées à des théories scientifiques qui ont été couronnées de succès, aucune critique formulée contre elles ne peut être à sa place. Donc, et ça, c'est le critère de l'adéquation. Si une théorie mathématique peut être incorporée à une théorie scientifique satisfaisante, une théorie générale du monde satisfaisante, alors, d'une certaine façon, elle devient inattaquable. Donc, c'est le critère du succès et de l'acceptabilité pour les mathématiques. Alors, pour les intuitionnistes, la situation est complètement différente. Ça, c'est le point de vue que défendent les formalistes. Le point de vue des intuitionnistes, encore une fois, est totalement opposé à celui-là. Pour eux, les propositions mathématiques ont une signification autonome qui rend possible les applications qui sont faites d'elles, en particulier par les sciences, mais cette signification n'est pas constituée par les applications en question. Donc ils ont un point de vue complètement différent de celui qui est exposé dans le passage que vous avez sous les yeux. Les intuitionnistes pensent que les mathématiques possèdent une autonomie réelle par rapport aux sciences de la nature, et leurs propositions ont des critères de validité spécifiques qui peuvent tout à fait être critiqués s'il apparaît qu'ils nous amènent à reconnaître comme vraies des propositions qui ne le sont pas, dans le seul sens du mot « vrai » dont nous pouvons prétendre disposer pour elles. Mais justement, les illusions se produisent principalement quand on croit disposer d'un critère de la vérité qui autorise à passer sous silence le rôle déterminant de la subjectivité connaissante. Et cette phrase résume assez bien le désaccord, hein, me semble-t-il, c'est que les illusions les plus graves du point de vue intuitionniste se produisent quand on se croit en possession d'une notion de vérité et d'un critère de la vérité qui nous autorise à oublier le rôle déterminant qui est joué par la subjectivité connaissante. Donc à chaque fois, on retrouve évidemment cet élément-là qui est l'élément central. Vous voyez ce que dit Villemin dans ce passage, du point de vue intuitionniste, toute la série dogmatique de classes de systèmes qui assument l'existence objective, indépendamment de toute activité de l'être connaissant, offre autant d'illusions. Donc si on se permet, si on se croit autorisé à oublier le rôle déterminant joué par l'être connaissant et ses activités de connaissance, donc si on se croit autorisé à oublier cette chose-là, eh bien, on s'expose donc à autant d'illusions. Une illusion philosophique étant suscitée quand le rôle du sujet est escamoté derrière le voile d'un objet pourvu d'une prétendue autonomie. Donc, on croit être en mesure d'atteindre donc directement un objet qui existe de façon complètement autonome, sans référence aux activités de connaissance de l'être connaissant, mais il s'agit, du point de vue intuitionniste, d'une illusion. Dès qu'un philosophe abandonne la réflexion et la possibilité de l'expérience, il donne, dans des illusions que chaque système intuitionniste décrit en référence à la méthode qu'il reconnaît comme son étalon de mesure, il y a un bon nombre de mécanismes différents de l'illusion impliquant des facultés de l'esprit différentes, attentes allant plus loin et plus haut que les représentations sensibles, ça c'est ce sur quoi insiste l'intuitionnisme dans la forme épicurienne, donc l'intuitionnisme d'Épicure. Donc, attente allant plus loin et plus haut que les représentations sensibles, assertion faite par une volonté victime de la prévention et de la précipitation, qui dépasse la portée des idées passivement reçues de notre entendement fini, ça c'est l'élément sur lequel insiste Descartes. Enfin, les spéculations d'une raison qui transgresse les limites imposées par l'intuition sensible aux constructions d'objets par l'entendement. Et ça, c'est ce sur quoi, évidemment, on sera amené à insister si on se réfère à la conception kantienne de la méthode, la conception que Kant se fait pour sa part de la méthode. Dans tous les cas, cependant, les illusions dépendent du même excédent de nos aspirations infinies sur notre pouvoir limité et de la même confiance aveugle dans les opérations de la logique conçue comme un organon de la philosophie au lieu d'être cantonné dans le rôle de canon de celle-ci. Le doute doit être recommandé à chaque fois que l'objet de la connaissance ne correspond pas aux procédures de construction adéquates. Fin de citation. Revenons à présent à la manière dont l'intuitionnisme conçoit les relations entre les mathématiques et les autres sciences. Le principe de séparabilité des mathématiques d'avec la physique et les sciences de la nature en général n'est pas seulement une caractéristique de l'intuitionnisme brouwerien. C'est également une caractéristique de l'intuitionnisme kantien. Donc, dans les deux cas, il y a cette idée que les mathématiques doivent être considérées comme disposant d'une autonomie réelle par opposition par rapport au reste de la science. Hein, alors que, comme on l'a vu, les gens qui défendent un point de vue holiste ont tendance à ignorer donc, cette. En tout cas, on a tendance à oblitérer cette autonomie que l'intuitionnisme reconnaît au contraire aux mathématiques comme une caractéristique absolument essentielle. Donc, dans le cas de Villemin, vous avez un exemple typique de ce qui se passe si on adopte le point de vue intuitionniste. Nul plus que Kant, dit Villemin, n'a tenu
à distinguer la mathématique et la physique, le domaine des essences ou des possibles, et le domaine de la nature et de l'existence. L'évidence est la discursivité, l'intuition est le concept. Dans l'univers leibnizien, le principe de continuité servait à établir des liaisons et des passages à la limite entre les vérités de raison et les vérités de fait, et le principe du meilleur permettait, à l'intérieur du monde des essences et des possibles, de choisir quelles essences et quels possibles devaient passer à l'existant. Donc il n'y a pas de coupure véritable entre ces deux choses. Au contraire, en distinguant entre les synthèses a priori directes et indirectes, Kant assigne un statut autonome à la physique. Il dissipe l'illusion dogmatique perpétuellement liée à la philosophie des mathématiques qui ne s'occupe que des possibles. Et hors du domaine de l'évidence, il détermine la région de l'existence et de la nature comme objet de notre expérience et de nos sens, en leur attribuant des propriétés qui ne sauraient par conséquent être déjà décrites et pensées dans l'intuition mathématique. Donc il y a des choses que l'intuition mathématique, en matière de connaissance de la nature, donc il y a des choses essentielles que l'intuition mathématique ne permet pas d'anticiper et pour lesquelles nous avons besoin de façon essentielle de recourir à l'expérience sensible. L'illusion dogmatique, dans le cas des mathématiques, consiste dans la prétention de légiférer sur des existants, et plus précisément sur des objets de la nature, indépendamment de toute référence à une expérience possible. C'est en cela que consiste l'illusion dogmatique. Mais, aussi longtemps qu'elle reste cantonnée dans son domaine, à savoir celui des essences et des possibles, la mathématique peut, bien entendu, se comporter légitimement de façon dogmatique. Dans ce domaine-là, et à cette condition-là, donc, elle peut parfaitement procéder de façon dogmatique. Or, la philosophie et l'ontologie de Quine ont, elles aussi, ce qu'on pourrait appeler leur principe de continuité. Quine ne croit pas à une différence de nature, mais seulement à une différence de degré entre les vérités d'essence et les vérités d'expérience, entre les vérités a priori et les vérités a posteriori, ou entre les vérités analytiques et les vérités synthétiques. Il ne croit pas possible de distinguer réellement, dans ce qui rend vrai un énoncé, une contribution qui serait due au langage et une contribution qui serait due à la réalité. Et il récuse, dans son principe, l'idée de traiter les propositions logico-mathématiques comme des propositions qui sont vraies en vertu du langage seul et par conséquent indépendamment de l'expérience. De son point de vue, toutes les propositions, y compris celles des mathématiques, sont, de façon simplement plus ou moins lointaine et indirecte, en contact avec l'expérience et susceptible d'être confronté à elle. Dans le système des propositions, il y en a qui occupent une position plus périphérique, donc qui sont susceptibles d'entrer plus directement en contact avec l'expérience et éventuellement d'entrer en contradiction avec elle, donc d'être au moins potentiellement réfuté par elle, d'être réfuté par ce qu'il appelle une expérience récalcitrante. Mais il n'y a aucune espèce de proposition, même pas les propositions logiques, hein, qui soient complètement soustraites à toute espèce de contact avec l'expérience. De plus, ce n'est pas chez Quine individuellement, mais comme il le dit, encore organisé, que les propositions affrontent le tribunal de l'expérience, selon un processus dans lequel les propositions mathématiques ne bénéficient d'aucune exemption et sont impliquées solidairement avec les autres. La tendance de Quine est donc de replacer les mathématiques au sein des sciences de la nature, au lieu de les en détacher, comme Kant, qui a été suivi en cela par les intuitionnistes, avait cherché à le faire contre Leibniz et Descartes. Et même si ce qui est caractérisé par Domet dans le passage que j'ai cité sur la conception holiste de la signification est, encore une fois, le point de vue des formalistes et non celui de Quine, celui-ci est incontestablement très éloigné aussi bien de l'intuitionnisme que du platonisme quand il conclut dans le fameux texte, Two Dogmas of Empiricism, donc deux dogmes de l'empirisme, quand il conclut que le choix de la proposition comme unité de signification complète et autonome repose sur l'utilisation d'une grille trop fine et que, vous avez cette déclaration tout à fait typique, l'unité de signification empirique est le tout de la science. C'est vraiment la formulation d'un point de vue holiste de l'espèce la plus stricte qu'on puisse imaginer, hein, c'est-à-dire l'unité de signification, c'est évidemment pas la proposition prise individuellement, est susceptible de se voir attribuer à titre individuel à la fois une signification et une valeur de vérité. Ce n'est pas non plus une théorie particulière, même pas quand il est question des propositions mathématiques, la théorie mathématique à laquelle ces propositions appartiennent ou les mathématiques dans leur ensemble. C'est comme une unité de signification empirique, comme il le dit, et le tout de la science. Dans, c'est le tout de la science, bien sûr, inclut, vous vous en doutez, les mathématiques elles-mêmes, puisque, encore une fois, il n'y a pas de raison, d'après Quine, et pour les gens qui pensent comme lui, il n'y a pas de raison d'attribuer aux mathématiques une position privilégiée, plus ou moins à l'écart donc, du reste de la science, à l'écart de la science empirique, en tout cas. Dans l'interprétation que défend Vidal-Rosset, l'impossibilité dans laquelle se trouve Quine d'exprimer correctement la philosophie intuitionniste peut s'expliquer du point de vue de Villemin par le fait que son critère de l'engagement ontologique, le critère de l'engagement ontologique que formule Quine, donc ce critère est dogmatique. Il l'est du moins dans sa version standard, dans laquelle l'énoncé existentiel, il existe X tel que F d'X, il y a un X qui a la propriété F, donc cet énoncé est une proposition et non un jugement. Encore une fois, c'est le point crucial qui distingue la position dogmatique de la position intuitionniste. Est-ce que cet énoncé est interprété comme une proposition ou comme un jugement? S'il est interprété comme un jugement, il y a une référence essentielle aux activités de connaissance qui nous permettent d'accéder à la vérité de la proposition, c'est-à-dire à l'état de choses qu'elle représente. Or, comme on l'a vu, l'intuitionnisme, selon Villemin, appartient à la catégorie des systèmes de l'examen et il peut être ensuite caractérisé par sa référence spécifique au jugement de méthode. On comprend mieux dans ces conditions ce qu'il peut y avoir d'insatisfaisant et d'insuffisant dans le fait de classer les systèmes du point de vue ontologique en faisant référence uniquement à leur façon d'accepter ou de rejeter des affirmations d'existence interprétées dogmatiquement, c'est-à-dire sans qu'il soit fait référence à des méthodes de connaissance, à leurs contraintes et à leurs limites. Donc il y a deux attitudes qui s'opposent sur ce point. Il y en a une qui consiste à essayer de classer les systèmes, et c'est ce que fait Quine, au moins en ce qui concerne les systèmes de philosophie des mathématiques. On peut les classer du point de vue ontologique, donc en faisant référence uniquement à ce que les différents systèmes acceptent ou rejettent en matière d'assertion ontologique, sans référence aux méthodes de connaissance qui sont impliquées. Puis on peut aussi, et c'est la position défendue par les intuitionnistes, estimer, considérer comme essentielle cette référence aux méthodes de connaissance. Vidal-Rosset dit à ce propos, avant d'être une philosophie des mathématiques, l'intuitionnisme est une philosophie de la connaissance. Un philosophe est intuitionniste quand il fait dépendre sa description de la réalité de la méthode qu'il a choisie pour analyser la connaissance subjective. Alors, je crois que c'est tout à fait exact. Avant d'être une philosophie des mathématiques, l'intuitionnisme est une philosophie des mathématiques qu'on pourrait tenter de caractériser par l'acceptation ou le refus, la plupart du temps plutôt le refus, d'accepter des objets mathématiques d'une certaine sorte, par exemple le refus d'accepter des ensembles infinis. Donc, avant de caractériser l'intuitionnisme de cette façon, comme une certaine position, une certaine conception adoptée par rapport à ce type de questions, il faut se le représenter comme une philosophie de la connaissance qui considère que dans chaque fois qu'on parle d'objets de quelque espèce que ce soit, il est impossible de faire abstraction du processus de connaissance qui nous a permis d'arriver jusqu'à eux. Alors la difficulté à laquelle se heurte ici Quine est que, puisqu'on a affaire dans le cas de l'intuitionnisme à des jugements qui sont le produit d'une subjectivité connaissante, le critère de l'engagement ontologique reçoit inévitablement une interprétation non standard. Dans l'intuitionnisme, donc la signification de l'énoncé existentiel, il existe tel que f d'x dans le cadre des mathématiques. Donc cet énoncé prend une signification nouvelle. Il signifie il y a une démonstration du fait qu'au moins un x possède la propriété f. Bien entendu, Quine est tout à fait conscient de cela. Il sait très bien, en particulier, que pour un intuitionniste, Il est vrai que P veut dire il a été démontré, ou en tout cas, on peut démontrer que P. Donc, il n'y a rien du fait que les assertions existentielles, du type il existe X tel que f d'X, ont une signification qui n'est pas la signification classique, pour la raison que dans le cas d'une proposition, donc, elle comporte une référence essentielle à l'existence d'une démonstration. Mais il se trouve que Quine n'a aucune sympathie pour les positions de cette sorte, c'est-à-dire les positions qui tendent à faire dépendre de manière essentielle la vérité de la démontrabilité, c'est-à-dire qui postule l'existence d'un lien essentiel entre vérité et démontrabilité. Donc il n'a aucune sympathie pour les positions de cette sorte, ce qui à première vue pourrait être interprété comme une preuve de la fermeté et de l'opiniâtreté de son adhésion au réalisme. Alors, en terminant, je voudrais vous dire juste encore quelques mots sur cette question, donc sur ce qu'est exactement l'attitude de Quine, qui est très caractéristique, comme vous allez le voir, dans l'article « Constructivisme » d'un livre que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, donc celui qui s'intitule « Quidité » au pluriel. Quine discute notamment la conception de Brouwer et la possibilité évoquée par Demet que nous nous trouvions obligés d'étendre la logique intuitionniste et les restrictions qu'elle impose à d'autres domaines que les mathématiques. Et sa réaction est sur ce point tout à fait dépourvue d'ambiguïté. C'est un refus non déguisé. Vous voyez, par exemple, le passage suivant. Dans certains écrits récents, Michael Dummett étend les contraintes intuitionnistes au-delà des mathématiques à la science en général. Un énoncé n'est en droit ni vrai ni faux, à moins qu'on puisse décrire des observations susceptibles de témoigner en sa faveur ou contre lui. De telles doctrines sont émaillées d'opinions empiristes tout à fait louables, donc c'est une position, une conception qui va de façon louable dans le sens de l'empirisme, mais par laquelle Quine n'est malgré tout tenté en aucune façon. De telles doctrines, dit-il, sont émaillées d'opinions empiristes tout à fait louables, mais elles font obstacle à l'effort non moins louable vers la simplicité et la clarté qui caractérisent la science. Autrement dit, elles ont pour effet de compliquer, même si c'est pour des raisons qui peuvent sembler à première vue bonnes du point de vue philosophique. Et encore une fois, comme j'ai insisté à différentes reprises, cet aspect philosophique est déterminant dans l'intuitionnisme. Donc même si les raisons pour lesquelles on se complique les choses peuvent sembler à première vue bonnes, la complication est quand même tellement grande qu'elle devient rapidement intolérable. C'est le point de vue que défend Quine. Les normes intuitionnistes sont, dit-il, obscures, tout spécialement lorsqu'on les projette au-delà des mathématiques. La logique déviante qui leur correspond aggrave encore les choses, compliquant et brouillant la simplicité cristalline de la logique des prédicats classiques. 2 est le nombre le plus petit et le plus simple qui déménage. Je ne sais plus quel est le mot anglais qui a été traduit par déménage, mais il est clair que ce que Quine veut dire, c'est que la bivalence, c'est très bien. Si on peut éviter d'aller au-delà de 2 en matière de valeur de vérité, ce n'est pas la peine de le faire. Pour qu'on puisse accepter d'introduire une troisième valeur de vérité, voire une infinité de valeurs de vérité, puisqu'il y a des systèmes plurivalents qui sont construits donc sur l'idée d'un nombre infini, d'une infinité dénombrable de valeurs de vérité. Et là, vous voyez que Quine indiquait tout à fait clairement qu'à ses yeux, ce n'est pas nécessaire d'aller au-delà de la bivalence, ou en tout cas, il faudrait des raisons extrêmement fortes pour accepter de le faire. La logique à 2 valeurs, dans laquelle s'inscrit la loi du tiers exclu, est un système minimal, strictement profilé pour l'action. Donc c'est un système qui présente des avantages tellement grands qu'il faut vraiment, dit-il, y regarder à 2 fois avant d'envisager de l'abandonner. Alors l'argument donc utilisé, le type d'argument utilisé par les intuitionnistes laisse Quine à peu près complètement froid. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage-là, sur lequel je terminerai, hein, une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité. C'est-à-dire, on pourrait envisager d'accepter l'idée d'une troisième valeur de vérité du type ni vrai ni faux. C'est ce qu'il appelle, en recourant au langage religieux, les limbes, hein, entre le ciel et l'enfer. si on veut bien accepter de comparer le vrai au ciel et puis le faux à l'enfer. Entre les deux, donc il y a les limbes. Donc une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité, ce qui dépend alors de l'existence de Camelot ou de quoi que ce soit, donc de certains objets fictifs comme le château de Camelot ou de quoi que ce soit, et donc ce qui dépend de l'existence de ce genre d'objets qui se trouvent être des objets qui n'existent pas est la valeur de vérité plutôt que le fait de signifier, et cela est satisfaisant. Mais donc, si vous voulez, les énoncés qui font intervenir des objets de cette sorte, on ne pourra pas leur attribuer l'une des deux valeurs de vérité classiques, le vrai ou le faux, mais on leur attribuera la troisième valeur de vérité. Par conséquent, ils conserveront une signification, ils conserveront la possibilité de signifier, mais le fait qu'ils soient fait référence à des objets qui n'existent pas affectera leur valeur de vérité, et seulement leur valeur de vérité, et ils prendront la troisième valeur de vérité. Mais, dit Quine, le prix à payer est la lourdeur de la logique trivalente. Conjointement à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes. Là, il fait allusion au choix que fait Loukachevitch dans le système dont je vous ai dit quelques mots, c'est-à-dire que dans le système de Loukachevitch, celui qu'il a construit en 1920, donc le système trivalent, donc la négation d'un énoncé vrai, c'est-à-dire ayant la valeur 1, prend la valeur faux, c'est-à-dire 0, la négation d'un énoncé ayant la valeur 0, c'est-à-dire le faux, prend la valeur vraie, et enfin la négation d'un énoncé ayant la valeur intermédiaire, 1,5, c'est-à-dire pouvant être soit vrai soit faux, prend la valeur 1,5. Mais malheureusement, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire la complication essentielle à laquelle Quine fait allusion, c'est le fait que dans la logique classique bivalente, il n'y a qu'une seule négation. La négation, tant qu'il n'y a que deux valeurs de vérité, on n'a aucune possibilité de choix, puisque la négation exige ce qui est exigé au minimum par la négation, et que la négation d'une proposition vraie soit fausse, et la négation d'une proposition fausse soit vraie. Mais, comme vous le voyez déjà très bien dans ce passage de Quine, dès que vous avez trois valeurs de vérité, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il va y avoir différentes façons de choisir la négation. Donc, Quine en évoque principalement deux, conjointement à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes, il y aurait une fonction de vérité qui change les énoncés vrais en énoncés des limbes, donc qui fait correspondre à la valeur 1, la valeur 1,5, ceci en énoncés faux, donc qui fait correspondre à la valeur 1,5, la valeur 0 pour la négation, et les énoncés faux en énoncés des limbes, c'est-à-dire qui fait correspondre à la valeur 0, la valeur 1,5. Et encore trois autres fonctions de vérité semblables à une place, épuisant toutes les combinaisons. Donc vous voyez, il y a un bon nombre de possibilités de choix en ce qui concerne la négation, en contraste avec une fonction unique, la négation dans la logique bivalente. Quand on passe aux fonctions à deux places, conjonction, disjonction et leurs dérivés, la prolifération perd toute mesure. Effectivement, le nombre des fonctions de vérité à considérer augmente très très rapidement, d'une façon qui, comme le dit Quine en terminant, reste contrôlable. Cette prolifération reste contrôlable, mais une prime évidente s'attache à notre logique bivalente, simple et bien profilée. Ça, c'est l'argument essentiel. Donc, c'est qui parle en faveur de la logique. De la conservation de la logique bivalente classique, indépendamment de toutes les objections philosophiques qu'on pourrait être tenté de formuler, y compris celles des intuitionnistes. Alors je crois que j'ai suffisamment abusé de votre patience pour aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là pour cette fois. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.